14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Si c'est un crime, on n'en connaît pas le mobile exact. Si c'est un suicide, on n'a pas la certitude du motif. À aucun moment, il n'a montré une quelconque émotion. Il a fait un travail d'ingénieur, il n'a pas fait le travail d'un veuf éploré.
Bonjour, peut-on se suicider de deux balles, dont l'une dans la tête, et avant de mourir, prendre le soin d'enlever sa combinaison tachée de sang? Jeannine Lindeker, 34 ans, a-t-elle accompli cette prouesse en se donnant la mort vêtue simplement d'un porte-jartel et d'un slip rose, ou bien a-t-elle été victime d'un mari autoritaire et jaloux? Pendant des mois, Alfred Lindeker, ingénieur chez Michelin, homme rigoureux, maniaque et obsessionnel, va attirer tous les regards et endosser le costume du suspect numéro 1. Impossible pour les enquêteurs de ne pas s'intéresser à cet homme triplement veuf. Dernier témoin à avoir vu Jeannine vivante, personnage qui a réponse à tout, qui va dérouter, on va le voir, les policiers et le juge d'instruction. C'est cette affaire, l'affaire Lindeker, entre certitude et mensonge, que nous allons parcourir aujourd'hui. Comment un homme seul, que tout accable, va parvenir à tenir tête à ses accusateurs, et ce sans jamais montrer la moindre faille ou la moindre faiblesse. Assassin ou époux à la bonne foi désarmante, question que nous allons poser aujourd'hui à notre invité.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Alfred Lindeker. À la fin de l'hiver 1956, cet ingénieur connu pour son sérieux, habitant dans la banlieue de Clermont-Ferrand, se retrouve en plein drame, la mort brutale de sa jeune épouse. Ce lundi 12 mars 1956, vers 18h30, un homme petit et trapu, portant un chapeau et un épais manteau pour se protéger du froid glacial, vient frapper à la porte de la gendarmerie de Roya, une commune limitrophe de Clermont-Ferrand. La gendarmerie est fermée. L'homme pénètre donc dans la mairie où il tombe sur le secrétaire général. Il dit s'appeler Alfred Lindeker et habiter dans le haut du village, une maison sur une route au nom prédestiné, la route des soupirs. Il raconte qu'il vient de trouver son épouse chez lui, effondrée dans une mare de sang. Il ne sait pas vraiment si elle est morte. Il parle d'un possible suicide. Une demi-heure plus tard, le médecin est sur les lieux, rejoint dans la maison de la route des soupirs par trois policiers du commissariat de Chamalières. Jeannine Lindeker, 34 ans, est allongée sur le dos, au beau milieu de la cuisine, la tête ensanglantée. Elle est quasiment nue, elle ne porte qu'une petite culotte rose, un porte-jartel et une paire de bas neufs. Le médecin a rapidement constaté le décès de la malheureuse. Une blessure est visible sous le sein gauche, un orifice causé par une balle. En relevant les cheveux de la victime, le docteur a noté qu'une deuxième balle est entrée par la tempe puis est ressortie de l'autre côté du crâne. Le décès remonterait aux alentours de 15 heures. Les policiers découvrent le revolver qui a donné la mort. L'arme calibre 7,65 est curieusement posée sur le buffet de la cuisine. Alfred Lindeker indique qu'il a lui-même ramassé le revolver qui lui appartient afin d'éviter que l'un des chats de la maison joue avec et cause un nouvel accident. Le mari précise qu'il a découvert le corps au retour de son travail. Il est ingénieur chez Michelin, à Clermont-Ferrand. Il donne tous les détails possibles. Il explique qu'à son arrivée, la porte était normalement fermée, sans être verrouillée. Il n'a remarqué aucune trace d'effraction, aucun désordre dans la demeure. Rien ne semble avoir été dérobé. D'emblée, Lindeker insiste. Il ne s'agit pas, selon lui, d'une agression, mais d'un suicide. Affirmation qui laisse pour le moins perplexe le commissaire Coutarel et les deux fonctionnaires qui l'accompagnent. Comment Jeannine Lindeker aurait-elle pu mettre fin à ses jours en se tirant deux balles à deux endroits distincts, à des distances différentes? Qui plus est, l'examen du barillet du revolver indique que ce ne sont pas deux balles qui ont été tirées, mais trois. L'un des projectiles a sans doute raté sa cible. En le recherchant sous un buffet, un policier fait une étonnante découverte. Il met la main sur une combinaison roulée en boule. Le vêtement est maculé de sang. Il porte la trace du coup de feu sous le sein gauche. Si elle s'est suicidée, Jeannine Lindeker se serait donc dévêtue. Après s'être tirée une première balle, elle se serait achevée en visant cette fois la tête. Opération digne d'une contorsionniste, tout aussi acrobatique qu'improbable, concluent les policiers. Alfred Lindeker est interrogé sur cette journée de lundi. Il peut la décrire avec précision. C'est effectivement un homme d'habitude, un mari réglé comme du papier à musique. Ce 12 mars au matin, il s'est rendu à son bureau aux usines Michelin à Clermont-Ferrand, à 20 minutes de Roya. Il est revenu pour déjeuner chez lui à 12h40 et non 12h30 comme d'habitude, car il avait dû s'arrêter dans un garage du coin. Il est passé à table avec Jeannine à 12h45 précise. Le repas a été rapide. Lindeker dit s'être un peu disputé avec son épouse. Il est économe, c'est une histoire d'argent, mais rien de grave, assure-t-il, même si Jeannine lui a fait, dit-il, un peu la tête. À 13h30, il a repris sa voiture pour retourner chez Michelin. Il a retrouvé son bureau à 14h, il l'a quitté à 18h10 et a retrouvé son domicile un quart d'heure plus tard. En entrant, il a tout de suite aperçu les mules bleues de Jeannine devant la porte de la cuisine. Puis il a vu le corps dénudé, il répète... Ma première impression, c'est qu'elle s'était suicidée. Première impression, effectivement, d'une scène de suicide, selon Lindeker, mais scène qui ressemble surtout à une scène de crime, un crime à huis clos dans cette banlieue tranquille de Clermont-Ferrand. Bonjour Joseph Vébray.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste et écrivain et vous avez écrit ce livre superbe, très intéressant et très palpitant qui s'appelle Les secrets d'Alfred Lindeker aux éditions de Boré. Vous l'avez écrit, je le précise, avec Gilles-Jean Portejoie qui est un célèbre avocat de Clermont-Ferrand et que l'on salue d'ailleurs au passage. Alors je parlais, Joseph Vébray, de ses premières impressions, cette espèce de sentiment qui pourrait s'agir d'un suicide, selon le mari. Ce crime, il faut bien le localiser et planter le décor. On est là dans la banlieue tranquille de Clermont-Ferrand. On ne peut pas dire que c'est un endroit qui ressemble à un coupe-gorge, village de Roya.
Pas du tout, c'est une très très belle banlieue. Roya a été très très célèbre sous le Second Empire pour ses sources thermales. Mm-hmm. C'était un lieu de villégiature. Un lieu où roi et reine aimaient à se retrouver durant la cure thermale. Ce n'est absolument pas un coupe-gorge. La maison est la dernière maison sur la droite lorsqu'on part de Roya pour aller vers la chaîne des puits, vers le puits de Dôme. Mmh. C'est une petite maison en hauteur qui existe toujours, qui est habitée par des gens que je n'ai jamais osé déranger. Et pourtant, j'en crève de revue.
Et pourtant, la maison pourrait parler. Alors, vous décrivez une maison qui est un petit peu isolée. Il faut dire tout de suite, Joseph Vébray, qu'il n'y a pas de témoin. Personne n'a rien vu, rien entendu dans cette histoire.
Rien vu, rien entendu.
Est-ce que vous pouvez nous dire, Joseph Vébray, déjà, qui est Alfred Lindeker, cet homme qui est réglé, comme je le disais, comme du papier à musique?
C'est un Alsacien qui est très étrange. Mais qui est très étrange à son corps défendant. Il parle très mal français. Mmh. Il s'exprime avec difficulté. Il n'utilise pas toujours les bons mots. Et il est psychorigide. Mais il est psychorigide dans son travail et dans sa vie de tous les jours. Il a 18 ans de plus que Jeannine. Lorsqu'il rencontre Jeannine et qu'il annonce aux voisins qu'il va l'épouser, tout le monde tombe des nues. Mmh. Il n'a rien de glamour, comme on dit aujourd'hui.
C'est pas un Apollon, c'est ça?
C'est pas un Apollon, il est petit, trapu, costaud. Il est ingénieur chez Michelin en 1956. Ingénieur chez Michelin, c'est la crème de la crème.
Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui est réputé pour son sérieux et sa technique. C'est quelqu'un de très haut niveau.
Il roule en Citroën... En Citroën, il y a très très peu de voitures encore à l'époque, et rien ne l'atteint, rien ne le touche, il ne fait transparaître aucune émotion.
Il est lisse comme ça, il a d'ailleurs un visage, vous le présentez en photo dans votre ouvrage, il a cette espèce de visage un peu énigmatique, il faut bien le dire,
oui.
Tout est lisse et tout semble glisser sur lui, et ce dès le début de l'enquête.
Tout à fait, et il n'a pas beaucoup de psychologie. Et il est tout de suite suspect, d'abord parce que il a du mal à s'exprimer, parce qu'il ne montre aucune émotion, mmh. Et parce que dès que les policiers recherchent un petit peu, ils découvrent qu'il est déjà deux fois veuf.
Oui, et ça, on va en parler, évidemment, Joseph Vébret, au fil de l'enquête. Ça fera l'objet d'un chapitre de cette heure du crime. Restons-en un petit peu à cette scène de suicide ou de crime, parce que pour l'instant, à ce niveau de l'enquête, on ne le sait pas. Pourquoi est-ce que le mari s'accroche-t-il à ce point à la thèse du suicide ?
Alors, il s'accroche à la thèse du suicide parce que, selon ce qu'il dit, et selon quelques témoignages, Jeannine était un petit peu dépressive. Mmh. Elle était dépressive parce que elle avait épousé la cause des animaux. Et ils habitaient pas très loin d'un chenil dont les chiens servaient pour les expériences. Roya est une ville pleine de cardiologues à cette époque-là. Est une ville réputée pour ses cardiologues.
C'est des chiens de laboratoire.
Ce sont des chiens de laboratoire. Son propre chien avait été empoisonné quelques semaines plus tôt. Elle était très très active à la Société protectrice des animaux. Et d'après Alfred, elle était dépressive. Et ajoute Alfred, et là on voit bien la personnalité d'Alfred, elle avait de mauvaises lectures, elle lisait Les fleurs du mal de Baudelaire.
Ben ça, oui, aujourd'hui, c'est considéré comme un classique, mais...
Et Les fleurs du mal de Baudelaire lui auraient également retourné l'esprit.
C'est ça.
C'est ce qu'il dit.
Il lui aurait donné une espèce de spleen, un peu toxique, voilà. Et elle aurait fini par succomber à ce genre de mal-être, on peut le dire comme ça.
Voilà, la vivisection plus Les fleurs du mal... Oui. Plus l'empoisonnement de son chien, plus peut-être la dispute pour une peccadille. Avec Alfred, c'est une dispute parce qu'il devait signer une feuille de sécurité sociale. Je vous rappelle qu'en 1956, les hommes signaient encore pour les femmes.
Et oui,
il faut attendre 20 ans de plus pour que les femmes soient autonomes de ce point de vue-là.
Oui, c'est important de le rappeler.
Et il veut bien signer pour le remboursement du médecin, mais pas pour les crèmes.
Mmh. Donc il y a une espèce
Le coût des crèmes, on découvre qu'il ne savait même pas que son épouse avait de l'eczéma. Ouais. Et pire encore, lorsqu'il raconte la dispute aux policiers, il leur dit « Nous nous sommes disputés, mais je sais qu'elle était dans la salle de bain parce que je me suis levé de table pour lui demander sa date de naissance pour remplir le papier. » Et il ne connaît même pas la date de naissance de son épouse.
En l'absence d'un autre suspect, les policiers vont fixer toute leur attention sur l'ingénieur de Michelin. Il apparaît de plus en plus comme le coupable idéal, mais cet homme déconcertant semble toujours avoir réponse à tout. Les enquêteurs n'avaient pas beaucoup de doutes, mais désormais, rapport du médecin légiste à l'appui, ils peuvent clairement exclure le suicide de Jeannine Lindeker. La première balle n'était certes pas mortelle, mais la deuxième a été tirée quand la victime était au sol. Elle n'a pas pu se faire elle-même ses deux blessures, l'ensemble n'a pas pu être réalisé au cours d'un suicide, écrit le légiste. Il est encore établi que l'épouse ne s'est pas défendue et n'a pas subi d'agression sexuelle, même si sa combinaison retrouvée cachée sous le buffet a été sans doute arrachée avec force et déchirée à hauteur de la poitrine. Le mari explique que le chat de la maison, encore lui, a très bien pu traîner cette combinaison légère sous le meuble et l'avoir déchirée avec ses griffes. Alfred Lindeker, un homme marié deux fois par le passé et doublement veuf, sa première épouse avait été retrouvée suicidée, a un profil qui intéresse au plus haut point les policiers. Lors de ses auditions, il ne se dérobe toutefois jamais. Il n'est pas dupe. Dès la première minute, il a su qu'il serait soupçonné. Il veut couper court à tout ce que l'on va raconter sur son couple. Il affirme ainsi que même si sa femme avait 18 ans de moins que lui, il n'était pas un mari jaloux. Même s'il a déclaré un jour à un de ses amis, sous le coup de la colère sans doute, « Je l'ai tirée d'affaire. Si elle me trompe, je la tuerai. » Dans cette petite ville de Roya, où tout se sait, aucun amant n'est signalé dans l'entourage de la jeune femme. Après 48 heures de garde à vue et toute une série de perquisitions à son domicile, notamment son atelier, où l'ingénieur dit étudier les effets des radiations sur le corps humain, Alfred Lindeker est autorisé à rentrer chez lui. Son emploi du temps, millimétré le jour du meurtre, l'exclut de la scène de crime. Le légiste certifie que la mort est intervenue 2 heures après le déjeuner. À cette heure-là, l'ingénieur était à Clermont-Ferrand, entouré de ses collègues de l'usine Michelin. « C'est à vous de prouver ma culpabilité et à moi de prouver mon innocence », répond directement Lindeker aux hommes qui l'interrogent. Pour le tester, un policier lui propose d'être soumis au sérum de vérité technique qui n'existe que dans les films. L'intéressé répond qu'il accepte immédiatement. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils tiennent le coupable, mais impossible de confondre le triple veuf. Les investigations font du surplace. Mercredi 21 mars, 11 jours après le crime, le corps fraîchement enterré de Jeannine Montmory, épouse Lindeker, est exhumé à la demande du juge d'instruction. Celui-ci a demandé un complément d'autopsie afin de procéder à un examen inédit en matière de balistique, le prélèvement de poudre sur les mains des victimes ou des suspects grâce à une technique américaine baptisée le test de Gonzalez, technique jamais employée jusqu'ici en France. Les mains sont préalablement lavées, puis enduites de paraffine tiède. Cette matière va déceler et retenir les moindres traces de poudre restées dans l'épiderme, traces dégagées par le tir d'un revolver. Le test, pratiqué sur la défunte, mais aussi sur son mari, qui accepte immédiatement l'examen. Un mois plus tard, 19 avril, les résultats du laboratoire de police criminelle de Lyon tombe, pas de poudre sur les mains de l'épouse, mais des résidus sur celles du mari. Cette fois, Alfred Lindeker est coincé. Du moins, le croit-on. La police va se rendre chez lui pour l'arrêter, mais il devance l'appel. Il va se présenter lui-même devant le juge Buteau et il dit « Avant que vous m'arrêtiez, je veux déclarer sur l'honneur que je n'ai pas tué ma femme ». Et voilà donc pour ce rebondissement qui était prévisible d'ailleurs parce que il est le principal et unique suspect dans cette affaire, Alfred Lindeker. Joseph Vébré, co-auteur avec Gilles-Jean Portejoie du livre Les secrets d'Alfred Lindeker. Alors il y a ce test à la paraffine, ce test qui l'accable. Qu'est-ce qu'il raconte lui quand on lui dit « Mais monsieur Lindeker, vous avez de la poudre sur les doigts, c'est pas bien, c'est vous qui avez tiré ?»
Alors il a une réponse. Il a une réponse qui tient la route. C'est qu'il n'y a pas l'eau courante chez lui. Et donc, il y a une pompe dans la cour intérieure qu'il faut actionner pour faire venir l'eau. Mmh. Et il a changé les charbons de cette pompe la veille, le samedi ou le dimanche, la veille ou l'avant-veille. Et il dit, en changeant ces charbons, automatiquement, de la poudre s'est déposée sur mes mains.
C'est possible ou pas ?
Apparemment, ça a l'air possible.
En tout cas, il fait front, si je puis dire, aux enquêteurs.
Il a réponse à tout.
Ouais, il n'est jamais désarçonné, Lindeker.
Jamais, hein. Ouais. Jamais, à aucun moment.
Alors, il y avait une. Vous avez raconté dans la première partie de cette heure du crime quelque chose qui était, je trouve, très intéressant, c'est que Jeannine, la victime, défendait les animaux, et c'est une bonne chose, et qu'elle avait autour de lui certains chenils qui étaient destinés au laboratoire. Pourquoi n'a-t-on pas étudié cette piste ? Parce qu'elle elle combattait finalement ses voisins qui avaient un chenil destiné au laboratoire, elle les ennuyait sûrement. Est-ce qu'on a étudié cette piste ?
Alors, comme c'est le cas très souvent, la police, persuadée que c'était Alfred Lindeker, a complètement écarté les autres pistes.
Elles ne vont pas être creusées.
Elles ne vont pas être creusées. Et il n'y a pas que cette piste. Il y a d'autres pistes. Ils ont d'abord cherché un amant. Ils n'en ont pas trouvé. Ensuite, comme la porte était fermée, ils se sont dit, il n'y a pas eu d'effraction. Mais on ne pouvait pas rentrer dans la maison de la rue. C'est-à-dire, la porte de la maison était ouverte. Enfin, elle n'était pas fermée à clé. Mais pour ça, il fallait rentrer par le garage. Et le garage, lui, était fermé. Quelqu'un aurait très bien pu entrer dans la maison en passant par les jardins derrière la maison. Cette piste n'a pas été creusée. Et il y a encore une autre piste, mais vous en parlerez peut-être tout à l'heure, qui est celle d'une amie très étrange que fréquente Jeannine.
Et on va en parler, vous nous en direz un mot dans le chapitre suivant, parce qu'effectivement, c'est tout ça est un petit peu troublant. On est surpris quand même qu'il n'y ait pas eu de vérification sur un possible rôdeur. C'est toujours possible, quelqu'un qui serait tombé face à Jeannine et qui l'aurait abattu, puis affolé, serait reparti. C'est tout à fait vraisemblable. Si on en revient à Lindeker, comment est-ce qu'il réagit au moment où on lui dit « Monsieur l'ingénieur », puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, vous allez aller en prison ».
Alors, il a une réaction tout à fait surprenante, mais qui, pour moi, plaide en faveur de son innocence. C'est qu'il demande au juge l'autorisation de retourner chez lui pour ronger sa maison.
Mais ça, c'est le maniaque.
C'est un maniaque, il est psychorigide, mais à mort. Mmh. Et le juge accepte. Et donc, Alfred va méticuleusement ronger sa maison. Et les policiers sont là, il leur dit « Messieurs, on peut y aller ». Alors, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte.
Allez-y.
C'est que de mémoire d'Auvergnat, on n'a jamais vu autant de journalistes de la presse nationale et de la presse internationale à Royat.
Alors ça, c'est important parce que effectivement, l'affaire, elle va passionner tout de suite tout le monde, mais bien au-delà de Clermont-Ferrand et bien au-delà du Puy-de-Dôme. Alors racontez-nous, parce que là, il y a des journalistes dans tous les coins à Royat.
Il y a des journalistes dans tous les coins. Ils sont 50, 60 à se presser devant la maison. Il y en a même. On suppose qu'il y en a qui sont rentrés dans la maison parce qu'il y a eu un. Il y a eu un cambriolage pendant son absence. Et tous les jours, la presse donne des informations. Les uns sont pour l'innocence, les autres sont pour la culpabilité. Et ça va tellement loin qu'il y a même une interview que je me suis procurée. 5 pages d'interview dans le Figaro littéraire.
Interview de Alfred Lindeker?
D'Alfred Lindeker.
Ah oui, alors qui va en prison, etc.
Grand format, les grandes pages du Figaro, quoi. Ouais.
Donc
le procès se déroule, l'affaire se déroule également dans les journaux. La scène de crime, alors déjà au départ, la scène de crime a complètement été abîmé par les médecins, les premiers policiers, etc.
Oui, mais à l'époque, Joseph Vébré, on prend quand même moins de précautions, faut
tout
bien le dire.
Il n'y a
pas de police scientifique, il n'y a évidemment pas d'ADN, il n'y a pas tout ça.
Je suis d'accord avec vous, et il s'avère que les journalistes ont des informations qui n'ont pu leur être données que par la police.
Alors c'est le jeu, parce que les journalistes, ils font leur boulot.
Tout à fait.
Vous en savez quelque chose, donc ils vont chercher dans les coins et les recoins pour savoir s'ils peuvent trouver quelque chose sur ce mystérieux Alfred Lindeker. Encore un mot, Joseph Vébré. Cette fois, le juge, le procureur aussi, la police judiciaire, tout le monde est convaincu. Cette fois, c'est bon, ils ont le coupable. Ça fait aucun doute.
Exactement. Donc Alfred Lindeker est incarcéré. Il sera incarcéré pendant 51 jours. Et durant ces 51 jours, il y aura 9 interrogatoires. Et les 9 interrogatoires, c'est le jeu du chat et de la souris.
Oui.
C'est un peu le film Huis clos.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde va essayer de le coincer. Il a presque toujours un coup d'avance, Lindeker, dans ce qu'il va raconter.
Il a un coup d'avance. En plus, il est doué pour le dessin, donc il fait des croquis.
Ouais.
Il prend énormément de notes. Il en fera d'ailleurs un livre où il jure son innocence. Et il ne se démonte jamais. Et même à la limite, il y a presque...
Il ne se démonte jamais, c'est ce que vous nous dites, Joseph Vébré. Un coupable, comme le présentent avant l'heure les autorités, un coupable qui se retrouve en prison. L'instruction est loin d'être terminée, mais la route d'une comparution devant la cour d'assises semble désormais grande ouverte. Incarcéré à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand, Alfred Lindeker ne cesse de répéter qu'il n'a jamais touché un seul cheveu de sa malheureuse femme. Il n'était pas chez lui au moment du drame. Il n'a pas pressé sur la détente du revolver. Il redit que si de la poudre a été retrouvée sur ses mains, il ne s'agit pas de celle de l'arme. 2 jours précisément avant l'exhumation de son épouse, il a voulu effectivement réparer la pompe qui fournit l'eau à la maison. Il a pour cela procéder au meulage des charbons pour les adapter à la mécanique. C'est pour cela que le test de la poudre est positif. Il est établi qu'à cette date-là, l'ingénieur a bien acheté des vis pour réparer le moteur de cette fameuse pompe dans une quincaillerie de Clermont-Ferrand. Alfred Lindeker doit faire face aussi à des accusations imprévues sur sa vie passée, ses deux premiers mariages. Une cousine d'Anne-Marie, la première épouse, déclare qu'il lui a rendu la vie impossible et l'a poussé au suicide. La mère de Geneviève, la deuxième épouse, parle d'un être égoïste, maniaque, brutal, qui avait mis sa fille en esclavage. Elle est morte alors qu'elle voulait le quitter. Les enquêteurs vont se demander si cet ingénieur méticuleux ne serait pas un tueur d'épouses. Après tout, cette série est pour le moins troublante. Je me moque de l'offensive des belles-mères. Je n'ai aucune responsabilité dans les morts de Anne-Marie, Geneviève et Jeannine, réplique l'ingénieur. Il n'en faut pas plus pour les journaux pour faire de Lindeker un tyran domestique qui malmenait ses épouses. Le 11 mai, Marguerite Montmory, tante de la victime, est ainsi auditionnée longuement par le juge. Elle sort du cabinet d'instruction 5 heures plus tard, les larmes aux yeux. Selon la presse, elle aurait raconté que Jeannine n'était pas une épouse heureuse et était sans doute sur le point de se séparer. Le mari n'aurait pas admis cet affront et serait passé à l'acte. Le magistrat instructeur rassemble des impressions, des confidences, mais il sait qu'il manque de preuves pour traduire Lindeker devant la cour d'assises. Il lui faut trouver désormais un mobile qui pourrait expliquer un tel coup de folie. Joseph Veubré, co-auteur avec Gilles-Jean Portejoie du livre « Les secrets d'Alfred Lindeker », Joseph Veubré, là, on essaie de faire de lui évidemment un coupable, en tout cas c'est la seule piste qu'ont les enquêteurs, mais tout de même, mauvais mari, un type un peu sinistre, pas forcément sympathique, méticuleux au point d'en être vraiment obsessionnel, 3 morts d'épouses, ça pose des questions quand même, 3 épouses mortes.
Alors ça pose des questions. Et tout à l'heure, on parlait des journalistes. 95% des journalistes ont fait un travail remarquable. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont été chercher tous les ragots de caniveau. Lorsque les enquêteurs ont un petit peu creusé sur la première épouse, ils ont découvert qu'en fait, la première épouse était allemande. Elle souffrait de vivre en Alsace, trop loin de sa famille, et qu'elle était partie revivre dans sa famille. En fait, elle avait quitté Alfred Lindeker, et quelques mois plus tard, un scandale a éclaté parce qu'elle est devenue la maîtresse d'un collègue de son père. Ce qui pourrait expliquer le suicide.
Donc, elle était un peu hors champ de Lindeker, c'est ce que vous voulez nous dire.
Tout à fait.
Alors, un mot sur la deuxième, Geneviève.
Alors, la deuxième épouse, elle a attrapé une maladie des poumons et Alfred a arrêté toute activité professionnelle pendant plusieurs mois pour la conduire dans une des meilleures cliniques de Suisse et il ne l'a pas quittée une seconde pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle meure dans ses bras.
Donc oui, effectivement, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'est pas dans le coup, si je puis dire, pour les morts de ses deux premières épouses, ce qui d'ailleurs il dément avec force. Vous nous avez parlé, Joseph Veubré, et c'est important, vous nous avez dit qu'il y avait des pistes qui n'avaient pas été explorées. On a parlé de la piste du rôdeur, de la piste de ces gens qui élèvent des chiens pour des laboratoires médicaux et que détestait sans doute la victime, Jeannine. Et puis, il y a aussi une autre piste. Alors là, il faut que vous nous racontiez, Joseph Veubré, c'est la piste de la mauvaise fréquentation, finalement.
Alors, il y a une piste un petit peu rigolote avant. C'est la piste d'un Clermontois qui se serait fait opérer d'une balle dans une fesse. Et aussitôt, tout le monde en a déduit que c'était l'amant de Jeannine qui s'était pris la 3e balle.
Ah oui, d'accord. Ouais.
La balle qui avait disparu. Et cette piste n'a pas été creusée, n'a pas été vraiment creusée. Parce que plusieurs personnes en parlent encore aujourd'hui.
On continue à explorer cette piste.
Et puis, il y a la piste, et effectivement, de cette femme.
Alors, racontez-nous, Joseph.
Au passé un petit peu trouble. Qui a volé, qui a fait chanter, etc., qui fréquente beaucoup Jeannine, qui vient souvent voir Jeanine. Jeanine un jour elle a dit à Jeanine, mais vous n'avez pas peur toute seule dans cette maison? Et Jeanine lui dit non, je n'ai pas de problème, au cas où il y a le pistolet d'Alfred, le revolver d'Alfred. Et elle lui a montré où elle cachait le revolver.
Oui, parce que ce revolver, il était bien caché. Hein,
il était dans l'armoire de la chambre à coucher.
Donc il fallait le savoir, il fallait aller le chercher.
Il fallait le savoir, il fallait aller le chercher.
Et donc il y a deux personnes qui peuvent le savoir, enfin trois, la victime, mais bon, on sait qu'elle ne s'est pas suicidée. Il y a cette fameuse dame de mauvaise fréquentation, d'après ce que vous nous dites, et puis il y a le mari, voilà.
Et puis il y a le mari. Et un jour, Madame Lindeker aurait essayé le revolver dans le jardin. Les voisins ont entendu comme un coup de feu. La police a cherché pendant des heures à retrouver la balle dans un tas de sable, parce qu'elle aurait tiré dans un tas de sable avec Eliane, justement cette amie de mauvaise réputation. Ils n'ont jamais retrouvé la balle, mais ça aurait pu être la troisième balle. Et cette femme donne énormément d'interviews.
Ah oui, elle s'est mise en avant. Alors
elle s'est énormément mise en avant.
Et effectivement, sur les scènes de crime, parfois ça parle, les gens qui se mettent en avant, ces témoins qui se mettent en avant. C'était important parce que ce sont des pistes qui ont été abandonnées. Le juge Buteau est bien conscient que les éléments incriminant Alfred Lindeker restent fragiles. Les expertises de la paraffine ayant permis de déceler de la poudre sur ses mains ne seraient pas d'une fiabilité extrême. Un rapport indique même qu'elles ont été à l'origine d'erreurs judiciaires en Angleterre, pays qui les utilise. Dans le cas présent, certains moulages semblent avoir été pollués par l'intervention des enquêteurs. Le magistrat est persuadé que le mari est le coupable et qu'il a tué sa femme à l'issue d'une mésentente. Mais il ne s'agit que d'une conviction, pas suffisant pour renvoyer l'intéressé devant la cour d'assises. Le 8 juin, le juge décide donc de frapper un grand coup et d'obtenir les aveux de Lindeker lors d'un 8e interrogatoire. Les questions sont directes, accablantes. Le juge accuse l'inculpé d'avoir minutieusement préparé son crime en se confectionnant un alibi en béton. Il aurait imaginé un tour de passe-passe. « C'est vous qui avez tué votre femme », lance-t-il. Lindeker reste de marbre. Le magistrat est interloqué. Il n'a plus aucune carte dans sa manche. Il sait qu'il a perdu la partie. Après 51 jours passés en prison, Alfred Lindeker est remis en liberté, faute de charges suffisantes. Il va toutefois devoir patienter quelques mois avant de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu. Dans celle-ci, le juge fait part de ses certitudes, mais aussi de ses regrets. Tous les homicides n'ont pas forcément un mobile, mais ils ont tous des causes profondes, lointaines ou rapprochées. Les interrogatoires ont fait ressortir ces causes profondes. Le magistrat estime encore que l'ex-inculpé avait prémédité son acte de façon rigoureuse et avait prévu l'attitude à adopter après coup, un mari machiavélique. Joseph Veubré, notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime, j'ai envie de vous demander tout de suite pourquoi le juge Buteau, qui est un monsieur qui a de l'expérience, qui a de la volonté, de la ténacité, pourquoi le juge cède, certes de mauvaise grâce, mais pourquoi est-ce qu'il cède face à Lindeker alors qu'il est persuadé de sa culpabilité?
Bon, parce que, vous l'avez dit, à l'issue de 8 ou 9 interrogatoires, il a en face de lui une anguille. Il a un roc et une anguille en même temps qui ne lâche rien. En plus, le médecin légiste, on découvre à un moment donné que dans une autre affaire, le médecin légiste s'est trompé de plus de 8 heures sur l'heure de la mort.
C'est-à-dire, ça c'est important, parce que on avait dit 15 heures, l'heure probable de la mort. À 15 heures, lui, il est chez Michelin, Lindeker, donc il ne peut pas être sur les lieux du crime.
Si le médecin légiste s'est trompé, ça peut être 17 heures. Voilà. Donc là, il y a encore un doute qui s'instaure. Et puis, Alfred a pris de très très bons avocats.
Oui, qui vont le défendre. Ce sont des ténors à l'époque, hein, les ténors du barreau de Clermont-Ferrand.
Ce sont des ténors du barreau de Clermont-Ferrand. Il y en a un qui roule dans une superbe voiture américaine bleue turquoise. Ils sont très 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 connus et ils arrivent à extirper Alfred Lindeker de la prison.
Alors on sent bien Joseph Veubret, et vous le dites parfaitement, que effectivement cette scène de crime elle a été polluée, que l'enquête elle a peut-être pas été menée comme elle le devait. Dites-moi un mot sur cette histoire du revolver. Alors ça c'est très bizarre parce que vous le citez dans votre livre, ce revolver qui aurait été manipulé et surtout à moitié démonté après le crime, c'est ça?
Lorsque la police arrive sur place, le revolver est sur le buffet. Alfred Lindeker dit tout de suite, il dit oui, j'ai pris le revolver du bout des doigts et en le prenant par le canon pour le mettre sur le buffet. Et le médecin dit oui, moi aussi j'ai tripoté le revolver pour voir ce que c'était. Donc là, impossible d'avoir la moindre empreinte digitale.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a un morceau du revolver qui a été enlevé, je crois, la plaquette, etc. Enfin, c'est un peu compliqué.
Voilà,
mais,
tout à fait.
Mais il y a plein d'incohérences comme ça.
Sur la scène, côtés.
Voilà, sur la scène de crime qui, encore, répétons-le, on est là à la fin, toute fin des années 50. Et évidemment, on le répète, mais il faut bien le signaler parce que ça peut paraître bizarre aujourd'hui. Mais à l'époque, pour parler un peu trivialement, on s'en fout un peu de toutes ces empreintes, etc. Le principal, c'est d'aller vite.
Alors, c'est le culte de l'aveu.
Et c'est le culte de l'aveu, faut pas l'oublier, ça c'est vraiment la justice française qui procède comme ça, ça a un peu changé quoique, mais en tout cas l'aveu est important en matière pénale. Alors, il y a une autre question que je veux vous poser, Joseph Veubret, qui est importante, c'est que finalement le juge d'instruction, il dit, ce type, c'est un méticuleux, c'est un maniaque, il est très précis, en fait, il a laissé une scène de crime dans le désordre pour bien montrer que ce n'était pas lui. Donc c'est un plan machiavélique. Il a fait exprès de laisser tous ces indices pour dire, voyez, moi je suis pas capable de faire ça, j'aurais fait ça bien mieux que ça.
Moi je suis persuadé du contraire.
Allez-y.
Je me dis que si c'était lui l'assassin, un psychorigide comme il l'est, il aurait tout organisé pour n'être même pas soupçonné.
Ouais. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas laissé les choses comme on les a retrouvées, c'est ça?
Je pense déjà que la combinaison ne serait pas roulée en boule sous la commode. Parce que son argument, c'est de dire, elle s'est tirée une première balle, elle a eu chaud, elle a enlevé sa combinaison, ensuite elle aurait tiré le tapis pour s'allonger sur le tapis avant de se tirer une balle dans la tempe.
Ouais, c'est grotesque.
Alors, on a déjà vu des suicides avec deux balles,
ouais.
Et tout peut arriver.
Oui, tout peut arriver, je suis d'accord, Joseph Veubret, mais pardonnez-moi, permettez-moi au moins de douter, parce qu'effectivement, la scène de suicide, elle est un petit peu extravagante. Hein. On a l'impression d'être sur une scène de théâtre, hein. Mais ça, c'est juste réflexion
alors,
personnelle.
Alors, sauf si on se dit, ce n'est pas Lindeker qui l'a tué. Peut-être qu'elle s'est suicidée, mais peut-être que quelqu'un d'autre l'a tuée.
Ah, ça, c'est effectivement une hypothèse qui est beaucoup plus intéressante, je pense. Alfred Lindeker va retrouver son bureau chez Michelin, ainsi que sa maison de Roya. Il assure qu'il va continuer à tout mettre en œuvre pour que le meurtre de Jeannine soit éclairci. Après avoir été libéré, Alfred Lindeker se confie au journaliste venu à sa rencontre dans la maison du crime. « C'est un véritable calvaire que je viens de gravir. Je suis là, mais ce n'est pas fini. J'aurai encore besoin de me battre. Mes maisons sont propres. Je ne suis pas un assassin. » L'ingénieur ajoute « Il faut que la mort de ma femme soit éclaircie. Elle le sera plus tard, j'en suis certain. Je m'y emploierai de toutes mes forces. » Pendant 6 ans, l'ingénieur va se faire oublier, continuant à travailler chez Michelin. Puis il publie un livre, « Le mystère de Roya », destiné à démontrer les accusations à son égard et les thèses des experts. Il refait toute l'enquête, contre-enquête, jusqu'à reprendre les mesures effectuées par les enquêteurs. Il va jusqu'à réétudier la balistique. Il peut conclure ainsi scientifiquement que, selon la trajectoire des balles, le tireur devait mesurer autour de 1m83, soit 20 bons centimètres de plus que lui. L'enquête n'a jamais été rouverte et celui ou celle qui a abattu Jeannine n'a jamais été retrouvée. Alfred Lindeker concluait son ouvrage avec ces mots pour le moins malicieux. Lecteur, si tu me rencontres, tu peux me serrer la main sans hésiter. Elle n'a pas de trace de poudre. Joseph Veubret, notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste et écrivain, co-auteur avec l'avocat Gilles-Jean Portejoie du livre Les secrets d'Alfred Lindeker. Alfred Lindeker qui n'a plus de secrets pour vous, Joseph Veubret. Qu'est-ce qu'il est devenu après avoir connu ces mois de célébrité criminelle, on peut le dire comme ça?
Eh bien, il a pris sa retraite et il est reparti vivre en Alsace. Il avait également une fille de son premier mariage, qui avait rencontré Jeannine, d'ailleurs, elle s'était très très bien entendue. Cette fille était venue passer des vacances à Royal, vivait aux États-Unis. Mmh. Et puis, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Mais si vous me permettez...
Allez-y, bien sûr.
Je voudrais dire trois choses. La première, c'est qu'on s'est tellement focalisé sur Alfred... qu'on n'a pas creusé la piste de cet ami un petit peu étrange, qui était Eliane.
Et ça, c'est la première chose. Et les autres pistes, d'ailleurs.
Une fois que le livre est paru, j'ai rencontré une femme qui m'a raconté avoir acheté la maison lorsque Alfred Lindeker a pris sa retraite. Et apparemment, la police a mal fouillé la maison parce que cette femme m'a raconté qu'il y avait une trappe dans la chambre à coucher qui permettait de descendre dans une pièce un petit peu secrète.
Incroyable.
Et que la pièce secrète était vide, c'est ce qu'elle m'a dit.
Incroyable. Donc,
et ils ont condamné cette pièce secrète, ils l'ont remplie de terre et de béton, mais il y avait cette pièce secrète.
Ils n'ont rien trouvé dans cette pièce.
Rien, c'est ce que m'a dit la personne qui a acheté la maison.
Rien à voir avec le fameux laboratoire dans lequel il faisait ses expériences,
non.
C'est pas la même pièce.
C'est pas la même pièce, mais est-ce que cette pièce, y avait-il quelque chose dans cette pièce avant qu'il ne vende la maison? On ne le saura jamais. Et la troisième chose, et j'ai pas osé le faire, il y a la tombe de Jeannine Lindeker à Roya. Ce n'est pas une concession à perpétuité. Qui paye le renouvellement de cette tombe, sachant qu'elle est réputée ne plus avoir de famille?
Mais est-ce qu'on peut le savoir, ça? C'est pas...
Ça, on peut essayer de le savoir.
Oui, mais donc ça rajoute au mystère. Alors là, j'ai envie de dire, faites une suite à votre bouquin, parce que là, effectivement, ça rajoute au mystère d'Alfred Lindeker et au secret d'Alfred Lindeker, qui est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc vous avez recueilli ces témoignages. On peut dire, Joseph Veubret, que, y compris encore aujourd'hui, c'est une histoire dans le Puy-de-Dôme. Moi, c'est une histoire que je découvre, pour tout vous dire. Donc, et j'en suis ravi, mais qui a marqué les esprits.
Alors, pour tout vous dire, moi j'ai 64 ans, quand j'étais gamin, chez mes grands-parents, aussi bien mes grands-parents étaient divorcés, donc chez les uns comme chez les autres, il y avait le livre d'Alfred Lindeker. Et quand on a publié ce livre, il y a plein de gens qui nous ont dit qu'ils avaient acheté le livre. C'est une affaire qui a marqué toute la région, et les générations qui ont aujourd'hui 90 ans s'en souviennent comme si c'était hier.
Effectivement, c'est un crime qui a marqué les esprits essentiellement dans la région, mais qui, à l'époque, et vous l'avez très bien dit, est allé bien au-delà de cette région, de cette belle région du Puy-de-Dôme et de cette belle ville de Clermont-Ferrand. Encore un mot, Joseph Veubret, qu'est-ce qu'il dit dans son livre le mystère de Roya? Qu'est-ce qu'il raconte? En fait, c'est sa défense pro domo, c'est ça?
Ah oui, il reprend son dossier de A à Z, il reprend les grands articles de presse qu'il décortique, c'est un livre qui fait près de 250 pages, et il démonte tout comme l'ingénieur qu'il a été toute sa vie. Donc il est innocent, il cherche à démontrer que ça ne peut pas être lui, il donne tous les éléments pour accréditer la thèse du suicide. Lui, il est bloqué sur la thèse du suicide.
Oui, mais enfin, bon, je ne la partage pas, mais enfin, ça, c'est juste mon avis, comme on dit. Mais Joseph Veubret, dernière question, qu'est-ce qui vous a convaincu à ce point que ce Alfred Lindeker, qui n'est pas un type formellement très sympathique...
On n'a pas envie de partir en vacances avec lui.
Et lui non plus, je pense, il n'avait pas trop envie de partir avec qui que ce soit. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il... C'est pas lui qui est innocent.
C'est ce côté, C'est un monstre froid. C'est ce côté complètement psychorigide et très très organisé. Je me dis que s'il avait décidé à un moment donné de tuer sa femme, il n'aurait jamais été soupçonné. Il n'aurait jamais... regardez, au moment où il doit partir en prison, il demande à aller ranger sa maison.
Ouais.
Je ne vois pas Alfred Lindeker tuer sa femme et partir travailler en laissant la maison en désordre.
Eh bien, c'est Alfred Lindeker, Les secrets d'Alfred Lindeker, c'est votre livre, Joseph Breuil, que je cite à nouveau, coécrit avec Gilles-Jean Portejoie aux éditions de Boré. Eh bien, Les secrets d'Alfred Lindeker, ils sont toujours là et cette affaire est toujours un mystère. Merci beaucoup, Joseph Breuil, d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.